Au moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes entre le Xe siècle avant notre ère et le premier siècle après ton Fils ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu voir ou déformer à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter trois textes tirés de la première épître de Paul aux Corinthiens, tous les trois dans le même chapitre 15. Alors, chapitre 15, versets 3 à 8. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton. Un peu plus loin, donc les versets 12 à 23 du même chapitre de la même épître. Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Et un peu plus loin, donc, versets 42 à 45. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Ceux mais corruptibles, on ressuscite incorruptibles. Ceux mais méprisables, on ressuscite dans la gloire. Semés dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semés corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, fut un animal doué de vie. Le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole. Qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Amen. Le temps de Pâques, où nous sommes encore, célèbre la résurrection de Jésus. C'est la base du christianisme. Alors, je sais que dans nos sociétés modernes et mercantiles, Noël a pris le pas. Mais Paul l'écrit, a écrit, je vous l'ai lu. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi, votre foi aussi est vaine. Il y a quelques années, ici même, je vous avais parlé de la résurrection. Enfin, je vous avais parlé des apparitions du Christ ressuscité à partir des récits que les évangiles font de ces apparitions, les différents évangiles, très différents d'ailleurs sur ce chapitre. Aujourd'hui, je vous propose de parler des apparitions de Jésus ressuscité à partir de ce catalogue que Paul a dressé de ces apparitions, catalogue qui, vous pouvez vérifier dans vos souvenirs ou dans vos Bibles, est très différent de ce que racontent les évangiles. Alors tout d'abord, je vais peut-être remettre la première épître aux Corinthiens dans son contexte historique avant de voir ce que Paul veut nous dire à travers ces Corinthiens d'autrefois. Paul a évangélisé Corinthe vers l'an 50, durant son deuxième voyage missionnaire. La première épître aux Corinthiens est un de ses textes les plus anciens. C'est un texte dense, touffu, dans lequel Paul aborde plusieurs sujets, en réponse ou en réaction à des situations locales à Corinthe que nous ne pouvons que deviner. Il parle des interdits alimentaires, du mariage, de la tenue des femmes dans les assemblées, de l'Eucharistie, de la collecte, et donc de la résurrection. On a toujours tendance à lire Paul à travers le prisme de nos souvenirs des évangiles. C'est une erreur. Paul est mort vers sans doute 64 pendant la première persécution par Néron, ou en tout cas vers ce moment-là, c'est-à-dire bien avant la rédaction du plus ancien évangile, qui est celui de Marc, rédigé sans doute vers 70. Il ne les a pas lus. Notre regretté ami Henri Persoz a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Enquête sur Paul et Jésus » où il explique que Paul, bien sûr, n'a pas lu les évangiles, mais même s'il avait eu connaissance des traditions orales à propos du ministère terrestre de Jésus, cela ne l'aurait pas intéressé. Les destinataires des épîtres non plus, évidemment, n'ont pas lu les évangiles. Les évangélistes ont-ils lu les épîtres de Paul? C'est une vaste question. En tout cas, il est clair que Marc, le premier évangéliste, a lu la première épître aux Corinthiens, puisqu'il en a reproduit presque, pas tout à fait, mais presque textuellement, un chapitre, le chapitre 11, les versets 23 et suivants, dans lesquels Paul retrace la scène, le dernier repas de Jésus, qui est la seule allusion d'ailleurs que fait Paul à l'activité de Jésus de son vivant. Matthieu, puis Luc ont repris le texte de Marc sur la scène. Mais volontairement, puisqu'il n'en fait pas état, Marc n'a pas retenu le catalogue des apparitions de Jésus que dresse Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Il n'y a pas d'apparition du ressuscité dans l'évangile de Marc, du moins dans sa version d'origine. Et puisque Marc n'en parle pas, c'est peut-être pour ça que Matthieu, Luc et Jean vont broder quelque chose de très différent sur les apparitions de Jésus ressuscité. Pour énumérer ces apparitions, Paul ne cite pas ses sources. « Je vous ai transmis ce que j'avais reçu. » La seule apparition donnant lieu à une source, c'est le témoin direct. La dernière, c'est Paul qui est lui-même le témoin direct, l'avorton, comme avorton, de l'apparition finale du ressuscité. Paul, de plus, ne donne aucune indication de lieu ou de circonstance. Il donne une chronologie, c'est tout. Les évangélistes seront beaucoup plus détaillés. Paul ne dit pas plus quel était l'aspect, la forme visuelle du ressuscité. Dans les évangiles, Jésus apparaît vraiment sous une forme corporelle, physique. Il a des pieds, devant qui Marie de Magdala et l'autre Marie se prosternent. On peut voir ou toucher ses plaies. Il mange pour démontrer qu'il n'est pas un fantôme. Certains ne le reconnaissent pas tout de suite, mais ils voient bel et bien un être humain de chair et d'os. Rien de tel pour Paul. Il a été vu, il s'est fait voir. Le mot grec, c'est « ophté », qui a donné ophtalmologie, bien sûr. On note que Paul utilise le même terme pour les visions des 12, des 500, de Jacques, des apôtres et de lui-même. Alors que Paul n'a jamais prétendu avoir vu Jésus ressuscité en chair et en os. Et Luc, qui est le biographe de Paul, ne le dit pas non plus. Qu'ont-ils vu ? Ils ont vu que Jésus était ressuscité. Nous n'en saurons pas plus. Il est vraisemblable que cela est une construction intellectuelle de Paul, hein, trop bien construite pour être historique. Vous avez Pierre, Paul l'appelle Céphas, hein, c'est le nom grec. Pierre, les 12 apôtres, on note au passage que Paul n'a jamais entendu parler de la trahison de Judas. Il y a 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. Puis il y a Jacques, le frère ou demi-frère de Jésus, suivi de ceux que Paul appelle les apôtres. C'est pas comme ça que nous les appelons, mais en réalité, ces apôtres sont le groupe de missionnaires réunis à Jérusalem autour de Jacques. Paul rend ainsi hommage aux deux chefs de la jeune communauté, que l'on n'appelle pas encore chrétienne, Pierre et Jacques, dont il reconnaît l'autorité, même si l'on sait qu'il a eu des rapports parfois très tendus avec eux. Le sens est clair, Paul veut convaincre les Corinthiens, peut-être lui-même, de la résurrection de Jésus. Et pour cela, il invoque des autorités indiscutables, des deux leaders de la communauté et de témoins directs, les 500, dont la plupart sont encore vivants et que l'on peut donc interroger. Et il se cite lui-même comme témoin oculaire, « Je l'ai vu !» Parce que, il le dit, et je le répète, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de foi en Christ, il n'y a pas de christianisme. Alors, qu'est-ce que la résurrection pour Paul ? Les successeurs de Paul, Matthieu, Luc et Jean, pour donner de la crédibilité à leur récit des apparitions du ressuscité, rapportent des petits faits qui font vrai, authentique. Donnez-moi à manger, touchez mes plaies. Paul reste évasif. Son ressuscité est abstrait, évanescent. Pourquoi ? Il le précise peu après, je l'ai lu, « La résurrection de Jésus constitue les prémices de la résurrection future des croyants, ceux qui sont déjà endormis et ceux qui le seront. » Les évangélistes, certes, annoncent la vie éternelle des croyants, mais Paul parle bien de résurrection. Trop préciser l'aspect physique du ressuscité serait préjugé de notre aspect lorsque nous serons à notre tour ressuscité. C'est un scénario apocalyptique de la fin des temps. Il le dit. Puis ce sera la fin et le dernier ennemi vaincu sera la mort. Dans l'épître aux Romains, Paul précise un peu, Dieu fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Paul ne s'en tient pas là. Au verset 35, comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? On voit que Paul ne recule pas devant les difficultés. Évidemment, on ne peut pas décrire la vie après la mort. Shakespeare parle du pays non exploré dont aucun voyageur n'a repassé la frontière. C'est dans le monologue d'Hamlet. D'où l'astuce de Paul. Une image tirée de l'agriculture. On est semé dans la corruption et on ressuscite incorruptible. Il n'y a pas discontinuité entre la graine et la plante, c'est le concept du corps spirituel qui prendra la relève du corps charnel. Il est difficile d'en dire plus, hein. L'humanité a inventé des images pour représenter l'au-delà. Je n'en cite que quelques-unes. Un ciel où, pour l'éternité, nous flottons entouré d'anges qui jouent de la harpe. Bon, oui, c'est pas terrible. Un banquet divin, le festin de Babette, peut-être. Enfin, un banquet éternel pour un corps spirituel. Bon, L'écrivain, passons à un écrivain de science-fiction, Philippe-Joseph Farmer, dans un cycle romanesque, Cycle du fleuve, il a inventé une planète où reviennent à la vie tous les humains tels qu'ils étaient à l'âge de 25 ans. Bon, mais c'est pas Dieu, c'est une création de démiurges extraterrestres. Eux, les humains, là, ils croient que c'est Dieu qui les a ressuscités, et ça n'arrange rien, ils recommencent à inventer des armes et à se faire la guerre. Passons. Marc, lui, repris par Matthieu, puis par Luc, rapporte le piège tendu par des Sadducéens à Jésus. Une femme qui a eu 7 époux successifs, 7 frères, selon la loi juive, meurt. Duquel sera-t-elle l'épouse lors de la résurrection ? Jésus les rembarre. Après la mort, il n'y aura ni époux ni épouse. Ils seront comme des anges. Bon, c'est encore un peu vague, hein ? Enfin, bref. Paul reste raisonnable. Il ne précise pas ce qu'est le corps spirituel qu'il annonce. Je ne peux pas en dire plus, hein. Nous ne saurons ce qu'est l'au-delà, la vie éternelle, que lorsque nous y serons, le plus tard possible. Alors comment conclure sans rester sur ce flou, cette constatation d'ignorance ? Paul a utilisé une image, celle de la germination. Je vous en propose une autre, tout aussi poétique, j'espère. Dans le film « Le lion et le vent » de John Milius, le premier film que j'ai passé au ciné-club, au deuxième étage, on voit le chef berbère, incarné par Sean Connery, bon, il n'était pas berbère, il était écossais, peu importe, qui fait ses adieux à l'américaine qui est jouée par Candice Bergen. Évidemment, entre cette américaine et ce chef berbère, il ne peut rien avoir, et il n'y a rien dans le film, mais on sent que peut-être. Et donc voilà comment le chef berbère, Moulay Hamoud El-Razouli, fait ses adieux à l'américaine. Nous nous reverrons, Madame Pédécaris, lorsque nous serons deux nuages d'or dans le ciel. C'est une image qui annonce des retrouvailles avec ceux qui nous sont chers, un message d'espérance et de grâce. Amen.